Clifford Mode, et je sais pas pourquoi je vous avais dit Mood tout à l'heure. Mais oh, je dis comme je peux, mon brave monsieur. Je me fais reprendre par le technicien. Oui, ben Clifford Mode, et c'est cool en fait. C'est surtout faut écouter quoi. C'est ça le vrai truc. Vous êtes toujours en direct, en live et en public du festival BD d'Evreux. C'est aujourd'hui et demain. Et venez quoi.
Principe actif.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape?
Dans le sud de l'heure, 95.9. À Évreux, 102.4. Et partout ailleurs, sur principeactif.net.
Ah ben voilà, on est en train de discuter avec François Gomez qui est avec nous, auteur et également de bande dessinée. Je suis en train de chercher notamment Castle Witch et Brocéliande, dont nous on a vu passer les éléments, autodidacte, et ça m'intéresse sur cet univers là tout à fait. Mais non, mais beaucoup sont passés par des écoles d'art, sont passés par les vieux. C'est ça, non, les des vieux, jeunes aussi.
Non,
hein.
Mais les vieux, c'est des autodidactes.
Ouais. Ah ouais, c'est ça, les vieux. Ça marche très bien, ça marche très bien. Moi, je t'entends. Ouais, ouais.
Quand je disais, les vieux, c'est des autodidactes.
D'accord.
Parce que t'as plein de jeunes qui. Moi, je suis prof dans une école. Là. Je suis autodidacte, mais je suis prof de BD.
D'accord, c'est marrant ça. Ouais. Non, quelle école? Une école
à
type.
À Caen.
Type.
Jeux vidéo, bande dessinée.
École supérieure. Enfin.
Oui, c'est université. Ouais.
Universitaire, d'accord, ouais. Ok.
À partir de la prépa jusqu'à art graphique, 5e année.
D'accord, ok.
Donc, jusqu'à même 3. Ah non. Non, par contre, je donne des cours aussi le midi pour les primaires, du CP au CM2.
D'accord. Alors ça, c'est justement ce petit truc, je voulais revenir sur autodidacte ou pas, et puis les cursus, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de cursus, plein d'auteurs, illustrateurs, scénaristes ou autres, par la passion, au moment des études, passent par tous ces cursus artistiques, on va dire, qui préparent ou pas d'ailleurs, hein, parce que tout le monde n'arrive pas à être auteur en sortie d'études.
C'est le destin des fois.
Oui, c'est ça, c'est ou du hasard, voilà, des choses qui arrivent. Et tu disais, les vieux, ils sont autodidactes. Parce que c'est cursus qui n'existait pas forcément ou qui n'était pas aussi bien renseigné.
J'avais une école, Les Gobelins, à Paris, à mon époque. J'avais fait le concours, mais sur 3000 inscrits, tu avais peut-être, je sais plus, deux classes de 30.
Ouais, ce qui est pas énorme, hein, ça fait.
Non. Donc, moi, même si t'étais arrivé 70e, c'était pas possible. Actuellement, si t'as les sous, tu payes ton année 7000, 8000 euros l'année. Faut encore pouvoir payer. Mais c'est un cursus qui dure 5 ans.
Après, ça fait beaucoup à la fin du cursus, quoi.
C'est des études. Tu mets plus longtemps à le faire tout seul, mais tu peux quand même faire de la BD. C'est encore un métier que tu peux faire en apprenant tout seul.
François Gomez, justement, autodidacte, comme on le disait, ce qui oblige à préparer un autre métier, j'imagine, au démarrage. Alors, est-ce que c'était déjà prof?
Alors, j'étais pas prof du tout, mais j'adore donner des cours, partager ce que j'ai appris. Non, moi, j'ai fait des études en histoire de l'écriture. J'ai fait calligraphe, puis en plus, après, j'étais spécialisé en histoire de l'écriture. Je voulais devenir Indiana Jones.
Ah ouais, et
j'ai voyagé énormément, mais parce que à chaque fois que je signais un contrat, je me barrais 3 mois à l'étranger et je faisais j'irai dormir chez vous,
ouais,
avec mes storyboards à la main et mes carnets de croquis. Mais non, moi c'est l'histoire de l'écriture, c'est tout ce qui est histoire des civilisations, la préhistoire, les dinosaures, tout ça. Voilà. Mais j'ai pas trouvé de poste là-dedans, donc j'ai fait l'illustration pour les jeux de rôle d'abord.
Ah ouais, dit, il y a des petits parallèles, des chemins de traverse qui peuvent s'attraper, bien entendu. Quand on a un parcours comme ça, qu'on rentre par la BD en autodidacte, comment ça s'est passé pour toi, François Gomez? Alors, comment
je faisais l'illustration pour des magazines de jeux de rôle, Casus Belli, Dragon Magazine, etc. Et un jour,
t'étais joueur toi-même?
J'étais joueur. Ouais. Ouais. J'ai créé un magazine d'ailleurs dans les années 90. Et sur un salon à Paris, au Monde du Jeu, il y a un scénariste qui est venu me voir en me disant « J'aime bien ton dessin, est-ce que tu veux faire de la BD ?» J'avais jamais fait de BD. Hein. Et j'ai signé pour la première fois, j'ai dit oui, hein, comme ça au culot, même si je savais pas du tout les codes de la narration que j'ai appris au fur et à mesure. Et donc j'ai signé chez Nucléa. Heureusement l'album il est jamais sorti.
Ah ouais ?
C'était une daube. monstrueuse.
Et à partir de là, on peut dire je fais de la BD. Après, on peut dire je fais de la BD. Quoi.
Après, je fais de la BD, même pas. En fait, après Nucleus s'est cassé la figure et juste au moment où j'avais terminé l'album, et j'ai suivi le directeur de collection qui m'a emmené chez Soleil et avec qui j'ai fait les Contes du Corrigan. J'ai fait Brocéliande, j'ai fait Terre de Sienne, j'ai fait plein d'albums. J'ai travaillé aussi pour Illustration Jeunesse, pour Hachette et pour plein d'autres maisons d'édition. Mais puis j'ai fait du storyboard pour le cinéma aussi.
Aussi, on en parlait tout à l'heure avec d'autres invités, finalement le storyboard et puis la BD ultra proche dans la façon de raconter.
C'est ce que j'ai compris, c'est que quand t'es dessinateur de BD, que tu travailles autant pour le dessin que pour la narration, parce qu'il faut faire la part des choses. La bande dessinée, c'est de la narration avant tout. Tu peux tout faire, tu peux travailler pour la musique, tu peux travailler pour l'illustration, tu peux travailler pour le cinéma, le jeu vidéo. Tu sais raconter des histoires et tu sais dessiner. Donc en fait, un dessinateur de BD, il est polyvalent, il peut tout faire.
Il peut tout faire.
S'il dort pas.
C'est ça. On en parlait.
Moi, je dors pas. Donc
tout
ça
à l'heure. Ouais, ça aide. Clairement, ça aide. On en parlait tout à l'heure avec un des illustrateurs. Il bosse tout le temps, en fait, non-stop.
C'est parce que je suis TDAH et autiste.
D'accord.
Donc je dors 3h30 par nuit. J'arrive pas à dormir plus.
Ah, mais ça libère du temps, hein.
Non, en fait, je suis pas fatigué. 3h30, 4h, et après je me lève, mais je dessine pas tout le temps, je joue aux jeux vidéo, je voyage, ma vie est remplie, quoi.
J'imagine. Sur l'univers, tu navigues quand même dans un univers fantastique. Voilà. J'allais dire fantasy, non, c'est fantastique, c'est pas tout à fait pareil.
Il y a de la fantasy, c'était de la fantasy, mais après il y a toujours des messages sur la vie. J'ai remarqué la plupart des BD que je fais depuis quelques années, c'est sur l'acceptation du deuil, même s'il y a le côté fantastique. Il y a toujours ce message derrière, c'est l'acceptation du deuil d'un proche, en fait, en message sous-jacent, en fait.
Ouais. Ouais. C'est en lien avec les scénaristes avec qui
les scénaristes, généralement, quand je travaille, on me dit toujours, t'as une histoire et tu... Non, on travaille ensemble sur ce que j'ai envie de dessiner.
Ouais.
Ils me préparent un scénario sur ce que j'ai envie de dessiner, et puis après, on dessine. À part Brocéliande, où on me proposait des histoires qui avaient déjà été écrite mais qu'on a changé quand même.
Mais c'est l'histoire des traditions, c'est ça, sur Brocéliande, non?
Oui, mais il y a quand même ce côté un peu fantasy. C'est du celtique, mais c'est du celtique à la sauce fantasy quand même. Hein, ouais. Il y a une différence entre le celtique et la fantasy.
Ah bah oui, clairement.
Je fais des conférences là-dessus. Donc,
ah ouais. Mais effectivement, il y a une différence. Puis là, c'est raconter des histoires, notamment sur Brocéliande, c'est raconter des histoires issues quand même d'une tradition. Voilà,
c'est le celtique, alors que la fantasy, c'est un monde totalement inventé avec des codes peut-être de tous les pays d'ailleurs.
Ouais. Quand on écrit comme ça du fantastique,
alors j'écris pas moi, mais
non, mais quand on produit du fantastique, il y a la question. On va attendre qu'il passe, pas d'inquiétude. Les auditeurs ont dû entendre aussi que ça passait. Ils ont dit attends, on n'entend rien, bouge pas, je recommence. Il y a la question du public. C'est vrai que sur le fantastique, il y a trouver son public entre jeune public, parce que le fantastique, généralement, on y rentre très jeune. C'est quelque chose d'abordable sur le jeune public. J'entends fin de l'enfance, on va dire.
Ouais, j'ai fait des livres jeunesse le fantastique.
Voilà, il y a les ados aussi qui peuvent aussi mordre dedans, mais pas de la même manière. Le public jeune adulte et le public adulte aussi qui.
En fait, c'est par rapport
c'est
au
pas
dessin,
évident.
En fait.
Ouais.
Par rapport dans Brocéliande, il est vachement plus réaliste que ce que j'ai fait pour Castlewitch.
Ouais.
Et pourtant, t'as des adultes aussi qui lisent Castlewitch. Donc, tu peux pas. T'as des adultes qui lisent Tintin, qui lisent Astérix, et pourtant c'est fait pour la jeunesse. Donc, tu peux pas vraiment cibler un public actuellement, en tout cas, à part vraiment certaines BD qui sont vraiment ciblées, tu vois. Ouais. Mais moi, ma cible, c'est tout public.
C'est le lecteur, quoi, en fait.
À part les 6 ans, c'est moins
facile, là, pour les tout petits. Mais justement, quand tu dessines, quand tu illustres, il n'y a pas cette intention de dire mon lecteur ou ce tu dessines comme
non,
ça
je
vient
dessine et... pour moi surtout voilà. Actuellement là, je fais une BD avec un style très Miyazaki qui s'appelle Le Secret des Libellules.
Mais pas rien que le titre, hein, il fait très
ouais,
Miyazaki.
Exact, mais c'était ouais. Mais on essaye vraiment de faire un truc à la Miyazaki actuellement là. Mais pour l'instant, c'est en pause parce que les petits soucis avec l'éditeur, mais voilà.
Sur les techniques utilisées, toi, sur le dessin, t'es plutôt numérique, t'es plutôt
alors,
papier.
Des fois, je mélange, mais
aquarelle, encre, comment ça marche?
À chaque tome, à chaque album, je fais déjà, je fais un format de page différent.
Ouais.
Rosselliande, c'est des très grands formats. Castelwitch, c'est des formats un peu plus petits.
Plus traditionnel, le format. Tu parles d'édition ou de travail?
Non, non, les pages originales.
Les originaux, ouais.
Les originaux, ouais. Et là, actuellement, je travaille, mais je fais même pas d'ancrage. C'est que du crayonné que je retravaille après à l'ordinateur. Mais les originaux, c'est que du crayon.
D'accord.
Et c'est un crayon propre.
C'est-à-dire?
Ça s'appelle de l'ancrage crayonné. C'est-à-dire que quand tu fais de la recherche crayonnée, c'est toujours un peu sale, avec des traits de construction, etc. Là, le crayonné, quand tu le scannes et que tu le rehausses au niveau avec Photoshop, tu as vraiment l'impression d'avoir un ancrage très léger.
D'accord.
Donc tu peux faire des couleurs à l'aquarelle, voilà. Alors qu'avec un ancrage à la plume, que ce que je fais d'habitude, ou au pinceau, avec de l'encre de Chine, l'ancrage, le noir est vraiment profond. Et quand tu fais de l'aquarelle dessus, le noir prend beaucoup quand même de place. Alors que là, non, parce que le crayonné, il est beaucoup plus léger. Donc, l'aquarelle et le crayon se mélangent bien, en fait. C'est une aquarelle numérique.
D'accord, aquarelle numérique.
Voilà, c'est pas moi qui fais les couleurs. Hein.
D'accord. Ouais. Donc toi, tu bosses que au noir, au crayon, au noir,
encre de Chine.
Voilà.
Non, mais je fais de l'aquarelle aussi, mais c'est pour des illustrations, pour des livres jeunesse, pour des commandes. Enfin, voilà.
Un kiff en particulier, un truc qui te fait kiffer en particulier dans ton travail?
Les illustrations grand format à la plume,
ouais.
à la style Gustave Doré. Mmh. Mais je fais des univers post-apo nature, un peu comme The Last of Us, qui n'ont rien à voir avec mes BD. Ou alors des univers très japonais avec des créatures de l'univers fantastique japonais.
Et voilà, ça, ce sont les kiffs.
Un autre kiff que j'aime, et je le fais en live sur mon Twitch, je prends une grande feuille à deux, je prends une plume, pas de crayon, je sais pas quoi dessiner, et j'y vais d'un coup, et à la fin de la journée, j'ai un énorme dessin rempli de détails, des hamsters de partout. Voilà.
Parce que c'est un défi là. Là, on est sur du défi presque.
Non, c'est pas des défis.
Pas du défi, mais du...
Non, c'est du lâcher prise.
Voilà.
Et c'est parce que c'est ce que je dis à mes élèves, c'est vous quand vous devenez dessinateur, que ce soit illustrateur ou dessinateur de bande dessinée, vous devez travailler avec des gens. Des fois, c'est des commandes, etc. Mais faut pas oublier que vous avez choisi ça parce que vous aimez le dessin. Donc n'oubliez pas de dessiner pour vous. Donc de temps en temps, prenez une journée et dessinez que pour vous, pas pour les autres, pas pour des commandes, juste pour vous faire plaisir. Sinon on oublie en fait. On oublie qu'on a envie de dessiner que pour soi en fait.
Très bien. Ouais. Eh bien merci beaucoup d'être passé par nos micros, François Gomez.
Avec plaisir.
Merci. Et puis on peut bien entendu le retrouver sur ce festival de la BD d'Evreux. Merci beaucoup. On va faire un petit tour musical. Eh ben moi j'ai allé sur ma palette, je suis obligé de le mettre. C'est Vulfpeck avec le titre. Alors c'est 16-12, mais en anglais on le dit autrement. Hein. 16-12. Voilà. Allez, Vulfpeck.
What you need? Frank Sinatra.
Vulpec, c'est ce qu'on venait d'écouter. En fait, on est en train de parler hors antenne. Le fameux grand débat, doit-on filmer ou pas la radio ? Eh bien, la réponse est non.
Eh bien, nous, on dit non. C'est voilà. Nous résistons. Nous résistons. Nos jingles sont encore faits maison.
De Cordoba, quand même, votre présentateur radio.
Ouais.
Là,
ouais, c'est vrai que, alors, on va vous dire la vérité. Monsieur Juan Maria Cordoba est passé tout à l'heure. Et il y aurait, a priori, un lien physique avec JC de la radio.
Je vais lui dire, d'ailleurs.
Oui, vous pouvez, oui, ce serait bien de lui dire. Voilà. Et d'ailleurs, on va pouvoir prendre une photo de peut-être JC avec Juan Maria. Voilà. En sachant que lui, c'est Juan, comment ? Juan Constantino.
Juan Premier, ouais.
Voilà. Autre chose aussi, JC, tu l'as dit, nous résistons. Hein. Pas d'image, pas de vidéo. Et des jingles sont faits maison.
Mais tout à fait. Attends, veux un, c'est ça ? Eh bien, écoutez, je vous enroule un sous les aisselles. C'est parti.
Principe actif.
C'est une radio libre.
Oui, je sais.
Non, c'est une radio libre.
Chaud parfait.
À Évreux, 102.4. À Verneuil-sur-Avre, à Breteuil-sur-Iton, à Conches-en-Mouche, 95.9.
Et nous sommes toujours en direct, en live et en public. Pourquoi j'ai trois micros? Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Nous sommes en direct, en live et en public du salon, du festival, pardon, de la BD d'Évreux, où tout se passe là sur la place du Général de Gaulle, la place de la mairie. On vous invite à nous y rejoindre. Bon, aujourd'hui, ça va bientôt fermer, donc venez demain, car les auteurs, illustrateurs, scénaristes, éditeurs seront tous demain encore présents et n'hésitez pas à les rencontrer. On reprend le contrôle de cette émission, vous avez bien vu, François Gomez est venu mettre le bazar, Damien a continué, Florence et Marie-Claude, nous on ne les tenait plus. Nous reprenons le bon déroulé de cette émission avec Erutot qui est installé avec nous. Bonjour à toi, comment ça va déjà? Commençons par ça.
Oui, bonjour, et ça va très bien, merci.
Bon voilà, t'as assisté à une grande débandade, mais t'inquiète pas, ça va se remettre en place très bien.
Je ne suis pas inquiet.
Auteur, la voleuse de lumière, Aubara, c'est les Chroniques des Abysses, hein, c'est ça, si je dis pas
Obara,
de bêtises.
Chroniques des Abysses, si on veut le nom complet, mais Obara, tout le monde comprend.
D'accord. Auteur dans un style manga, voilà, très, très inspiré de cette école japonaise du manga.
C'est ça.
Damien est en train de me le mettre sous les yeux, avec une lecture également de droite vers la gauche.
C'est ça, la maison d'édition pour laquelle je travaille est spécialisée donc dans la création originale de manga, donc du manga français, mais format...
C'est Nouvelle Hydre, hein, la maison
Nouvelle
d'édition.
C'est ça, oui. C'est ça, c'est sens de lecture de droite à gauche, comme le manga traditionnel, en noir et blanc et petit format.
Voilà. Petit format. Le format qu'on a sous les yeux, c'est pas ce qu'on appelle un petit format. Je me permets, hein.
Ah oui, mais il y a du manga comme ça, en grande édition, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi pour se démarquer du petit format.
Alors justement, cette technique manga, ce style manga, pardon, est typiquement japonais. On l'a découvert, nous, ici en France, dans les années 80. On l'a développé un petit peu. Et aujourd'hui, il est sur le devant de la scène, notamment chez les lecteurs jeunes. On va pas tout dire, mais tu n'es pas bien vieux, Eritot.
28 ans aujourd'hui.
Voilà, est-ce que toi, tu fais partie de cette...
Non, pas aujourd'hui, mais...
Aujourd'hui, il a 28 ans. Non mais Damien, faut pas lui dire ça. Il sort un gâteau à chaque fois. Là, c'est un fêtard. Il cherche la moindre occasion d'anniversaire. J'imagine que t'as été bercé au manga toi aussi. Alors peut-être.
Ah, j'ai commencé assez tard finalement. En fait, j'étais au collège quand j'ai découvert le manga avec One Piece, hein, comme beaucoup de monde. Et là, oui, je suis tombé amoureux en fait de la façon dont le manga raconte son histoire. C'est plus comme ça que je vois le manga par rapport à la BD franco-belge. C'est plus la manière de raconter que le style de dessin en lui-même.
Alors c'est-à-dire toi, qu'est-ce que tu en ressors de cette manière de raconter ?
Eh ben, c'est un style assez proche du cinéma, où on fait vraiment attention au dynamisme de la scène, de où placer l'angle de vue, donc la caméra en fait, si on se rapporte au cinéma, et on essaye vraiment de minimiser le texte pour mettre à profit l'émotion que véhicule le dessin en fait, et surtout le visage du personnage.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire, dans le manga il y a quand même l'ultra gros plan visage,
oui.
Qui est quand même assez présent.
C'est parce que c'est mon éditeur qui me l'a dit en fait. Il m'a fait remarquer que moi je faisais un peu trop attention au décor, parce que c'est comme ça que je suis entré dans le monde du dessin avant le manga. C'est parce que j'aimais bien faire des grands paysages fantastiques. Et dans le manga, la priorité c'est pas ça. La priorité c'est le personnage, parce que c'est à travers son visage que tu comprends ce qui se passe, tu comprends ce qu'il ressent, et ça, c'est plus intéressant pour le lecteur.
Alors t'es venu au devant de ma question, parce que j'ai envie de dire, dis donc, il y a beaucoup de décors pour du manga. Parce que j'allais dire, il y a beaucoup de décors pour du manga. Effectivement, alors il y a du manga avec pas mal de décors.
C'est un style un peu hybride en fait.
Voilà, moi je pense au décor par exemple. Alors, moi je suis tombé dedans, mais je suis un peu plus vieux, hein. Pas grand chose, hein, mais un tout petit peu. Moi je suis tombé dans le manga avec Akira par exemple,
voilà,
qui avait de magnifiques décors quand même.
Mais oui, mais en fait, j'ai découvert Akira assez tard finalement, d'abord le film puis le manga, et c'est vrai que c'est un style de dessin. J'espère un jour arriver à m'inspirer pleinement.
Mais... Parce qu'on est dans une narration manga, on est dans un cadrage manga, mais on a de grands décors aussi.
C'est
on
ça,
a
en
un
fait.
Peu, on a un peu l'ensemble, quoi.
C'est la priorité au visage, mais si on a la place de mettre du décor, si on est tellement bon qu'on arrive à mettre du décor et que ça marche aussi, voilà, il faut en profiter.
Quand on est auteur français de manga, c'est quoi la réalité ? C'est parce qu'aujourd'hui, le manga est tenu, et je le disais tout à l'heure, beaucoup par les Japonais. Qu'est-ce qui se passe quand on est auteur français de manga ? Comment on se débat là-dedans ?
Surtout en 2026, en fait, on se demande justement, est-ce que ça va évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? C'est ce qu'on se demandait déjà en 2020, après le Covid, où il y a eu un essor du manga grâce au pass culture. Et aujourd'hui, on voit la pente descendante. Moi, je considère que c'est un peu comme des vagues, en fait. Ça va finir par remonter.
C'est parce qu'ils ont baissé le pass culture.
Oui, c'est ça.
C'est vrai en plus. Hein.
C'est ça, en fait. Ils ont beaucoup importé les libraires. Forcément, à un bon moment, il y en a trop, donc il faut ajuster. Et on s'est demandé, en fait, est-ce que le manga allait se faire remplacer à nouveau par le webtoon, par d'autres médiums.
Le webtoon, ça c'est sur internet, la lecture
ça,
sur
c'est
internet,
la BD coréenne.
Ah, c'est la BD, le webtoon c'est coréen.
Ça vient de la Corée, si je ne me trompe pas. Et c'est un format principalement vu sur internet.
C'est numérique, oui, c'est
voilà,
ça.
C'est fait pour être consulté pour être scrollé en fait, sur les portables, les tablettes et les écrans.
Pour tout te dire, j'héberge dans mon foyer une fan de manga et de webtoon.
Voilà.
Bon, moi personnellement, j'en ai pas fait la différence, mais tout ce que j'ai compris, c'est que le webtoon c'était sur la tablette, quoi.
Ben c'est pas faux, voilà. Mais voilà, le webtoon c'est coréen à la base, en tout cas c'est essentiellement coréen, Et on s'est demandé justement si ça allait pas remplacer le manga à son tour. Parce que comme le manga a pris une grosse part du marché français avec la BD franco-belge. Et aujourd'hui, bah, on voit que ça se stabilise, qu'il y a quand même de la place pour le manga. Mais est-ce que le manga français arrive à se graver un peu dans la culture? Ça, on est moins sûr. En fait, il faut plus de recul.
Voilà, il va falloir voir tranquillement ce que ça donne sur la durée. Donc ça, c'est la partie manga. Tout à l'heure, à la médiathèque, t'animais un atelier, si je dis pas de bêtises. En fait, alors, comment ça se passe? Quoi, qu'est-ce, comment
C'est à tout public, en fait. Je peux enseigner aux adultes comme aux enfants jusqu'à 6 ans, en fait. Il faut qu'ils arrivent à tenir un crayon dans la main. Et ce que j'essaye de leur enseigner, en fait, c'est ma méthode pour apprendre le dessin. Et surtout, bah, comme on parle du manga, c'est les visages, c'est les décors. Enfin, c'est pas les décors, c'est les corps. Et j'essaie un peu de les éveiller à comment s'améliorer rapidement et tout seul. En fait, moi, je suis passé vraiment par beaucoup d'étapes. Quand j'étais au collège, j'étais tout seul, j'avais pas de conseils. J'essaie de vraiment de faciliter un peu le parcours des élèves, hein, qu'ils soient adultes ou enfants, pour qu'ils évoluent plus vite, pour qu'ils s'améliorent et qu'ils trouvent tout de suite leur passe graphique. En fait, donc pour ça, j'utilise quelques techniques que j'ai glanées ici et là, et je me dis, bah, voilà ce qui pourrait intéresser des enfants dans des ateliers à travers des exercices ludiques.
Ben voilà, c'est ça le but du jeu, c'est de s'amuser quand même et que ce soit une passion. Sur la réalisation du manga, il y a une tradition japonaise qui est d'aller toujours plus vite, que les tomes sortent très très vite. Comment ça marche pour toi et comment ça marche avec les chroniques, enfin, Obara et les enfants des abysses?
Je publie, ou plutôt je produis un tome environ tous les 8 mois.
J'étais en train de dire, il est hyper rapide. Hein.
Ouais, non, je peux pas faire ça, même les japonais peuvent pas faire ça. Donc c'est un tome tous les 8 mois environ. Au Japon, évidemment, ils sont beaucoup plus rapides, hein, parce que c'est pas du tout le même système de publication. Ici, on publie tome par tome. Au Japon, ils sont d'abord prépubliés chapitre par chapitre dans des magazines. Donc c'est évidemment pas le même objectif. Et moi, on me dit, ben oui, un tome tous les 8 mois, c'est très rapide pour un système français, évidemment, parce qu'on se compare à la BD où il faut rajouter la couleur, ça prend autant de temps que de faire du noir et blanc. Enfin, ça prend
ouais,
deux
c'est
fois plus de temps.
C'est la colorisation.
C'est une étape qui prend autant de temps que de faire le dessin noir et blanc.
Tout à fait, ouais. Ce qui fait aussi les délais. Mais il y a une vraie réalité. Enfin, le lecteur de manga, c'est un lecteur avide du numéro d'après, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est toujours ça la difficulté. C'est pour ça qu'on sait que le manga japonais ne va jamais périmer en France, quoi. On est trop accro, justement, à cette quantité de dessins. Et c'est pour ça que j'essaye pas de faire de la quantité, plus de la qualité. Donc, à m'émerveiller moi-même devant mon travail, en me disant j'ai fait de mon mieux, voilà. Et j'étais pas pressé par le temps.
Aujourd'hui, tu es sur. Il y a trois séries, La Voleuse de Lumière, Enfant des Abysses et Obara.
Tu as bien prononcé Enfant des Abysses, je suis content. Parce que
pourquoi
tout le monde dit Les Enfants des Abysses. Et je me dis, non, on ne dit pas les Dragon Ball, on ne dit pas le Naruto. On dit Enfant des Abysses.
Enfant des Abysses, tout à fait. Tous les tomes avancent sur les trois.
C'est imbriqué, en fait, dans
c'est
une même saga.
C'est une même saga, d'accord.
Voilà, c'est ça. C'est Enfant des Abysses, ma toute première série en trois tomes qui est conclue. Ensuite, on a fait un préquel à Enfant des Abysses qui se passe 80 ans avant, et c'est Obara en un seul tome. Et là, je suis en train de faire ma troisième série qui est la suite de Enfant des Abysses et qui est prévue en quatre tomes. Le tome 2 vient de paraître.
D'accord, donc ça, c'est le but du jeu, c'est que ça s'imbrique un peu quand même. Il y a des univers.
C'est ça, en fait. Si les gens sont intéressés par la première série et qu'ils ont bien aimé, bah, ils vont retrouver des codes dans la deuxième, la troisième série. Voilà, c'est un univers familier. Mais une personne qui n'a pas lu Enfant des Abysses peut très bien commencer par Obara, par La Voix de Lumière. Voilà, c'est. Alors, c'est la liberté aux gens de choisir Obara un seul tome. T'as moins de risques si t'aimes pas que si tu prends Enfant des Abysses.
Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est quasi l'inverse du fonctionnement japonais, pour reprendre les codes du manga, sur des séries interminables. Toi, au contraire, c'est on termine la série, mais on peut aller plus loin. Oui, on termine une série, on va plus loin.
On prend moins de risques comme ça, parce qu'au Japon, ça ne s'arrête pas, justement, parce que ça a du succès, en fait. Une série
Il y a plein de séries non finies au Japon, hein. Il y a plein de séries manga non finies.
Oui, parce que justement, elles ne fonctionnent plus. Du coup, on dit stop. Si ça ne fonctionne plus, ça marche, on s'arrête. Si ça continue, tu es forcé de continuer.
Ça va être horrible pour les auteurs et les lecteurs, surtout les lecteurs qui s'accrochent à une série.
Bah, les lecteurs, ils ont tellement de quantité de séries qui se ressemblent finalement que oui, bah, s'ils ont un coup de cœur qui n'est pas poursuivi, ils ont au moins d'autres séries sur lesquelles se reporter. Je ne comprends pas comment ils font en fait, parce que même moi je suis pressé par le temps pour vraiment vérifier si le scénario tient debout, s'il est bien intéressant et tout. Alors pour un japonais qui travaille